Slate Podcast.
Bonjour, ce n'est plus Kétéran, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfert, qui depuis 3 ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute.
Deux souvenirs se rejoignent. L'un quand je suis allée me faire tatouer la première fois et que j'ai demandé à ma tatoueuse si j'allais souffrir. Elle m'a dit « Les femmes n'ont jamais mal pour de si petits tatouages. On est bien plus habitués à la douleur. Il n'y a que les hommes qui trouvent ça douloureux. » L'autre souvenir, c'est celui d'une conversation il y a des années avec un homme qui me disait que je jurais et que ce n'était pas très féminin. J'avais dit « Ça veut dire quoi, féminin ?» Il n'avait pas bien su répondre et dans ma tête, je me disais que je ne saurais pas bien non plus. Je me demande si on me reposait la question aujourd'hui de ce que c'est la féminité, je ne répondrais pas que c'est une souffrance discrète. Une manière d'accepter une souffrance normalisée sans faire de bruit, gentiment, joliment. C'est un lieu commun chez les féministes de dire que si les hommes accouchaient, on aurait découvert la péridurale bien plus tôt et elle serait plus commune dans le monde entier. On trouve normal que les femmes souffrent, on trouve gênant qu'elles s'en plaignent trop. Mais jusqu'où peut-on s'aimer, dans sa féminité, quand elle est associée à la douleur ? Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Marion, au micro d'Agathe Le Taillandier.
Depuis ma puberté jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 33 ans, j'ai eu la sensation ou l'intuition de toujours être à côté de mon corps biologique féminin. Je sentais que j'étais pas forcément dedans, que dans ce corps, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas les miennes. Des injonctions sociales, des injonctions familiales. Et ce qui est peut-être grave en tant que femme, c'est que ne pas être en possession de son corps, c'est laisser d'autres choses le posséder. C'est comme si tu n'étais pas maître de tes propres perceptions ou tes propres sensations. Le fait de penser que ce corps est étrange et pas forcément le mien, c'était pas du tout lié à la perception d'un corps qui serait malade. Mais ce corps me donnait des douleurs qui font que ce corps, je l'ai souvent détesté, je l'ai souvent meurtri. Par exemple, je me rappelle de moments très douloureux de règles quand j'étais en troisième, quoi. Ça se traduisait, je dirais, surtout par des pesanteurs. J'avais un corps très très lourd à porter. Ouais, les entrailles qui pèsent sur tes jambes, c'était ça. Il y avait des douleurs vives, pointues, à différents endroits du ventre. Je me rappelle le fait que je ne pouvais pas, par exemple, me baigner comme tout le monde dans l'eau. C'était en vacances, d'ailleurs, avec mes parents. Et je me rappelle être un boulet pour la famille à ce moment-là. J'avais vraiment la sensation d'être vraiment... d'être une pesanteur, pas que pour moi-même, hein, pour tout le monde, parce que j'avais mes règles en famille, quoi, en vacances. Et pendant les règles, c'est normal d'avoir mal. Personne ne me l'a dit, vraiment, mais c'est quelque chose qui résonne sourdement partout. Voilà. Alors, j'ai grandi dans une famille de médecins où la question de la douleur n'est pas du tout abordée. Que ce soit la douleur physique ou la douleur psychologique, c'est quelque chose qu'on a toujours relégué en famille, qu'on a toujours nié. Donc, j'ai été éduquée en n'exprimant aucune douleur ou en pensant que l'expression d'une douleur était associée à une faiblesse psychologique. J'ai entendu une fois... tu es comme les hommes, tu supportes pas la douleur. Donc, on ne disait rien. Quand on avait mal, on allait, on prenait jamais de médicaments. Ou alors, quand on avait vraiment de la fièvre. C'est aussi leur propre éducation. Que mes parents ont reçu sur la question de l'expression de la douleur. C'est quelque chose qui se transmet finalement de génération en génération, quoi. Donc, je m'habitue à cette douleur, je vis avec. Je me rappelle le trajet en vélo de chez moi à mon travail. C'était dur à faire, quoi. C'était... La période douloureuse arrive avant la période des règles, pendant les règles, et ne part pas complètement après. Donc, oui, tu passes une bonne partie du temps à avoir mal, mais ce mal est naturel. Donc, pas forcément sujet à débat, en fait. À 25 ans, je décide d'arrêter la pilule que j'ai prise pendant 10 ans de ma vie, parce que je pensais que c'était pas forcément bon de bloquer son cycle, et que j'étais éloignée de mon corps de femme, en fait, que la pilule m'éloignait de mon corps cyclique, de production d'ovules et de saignements. Enfin, il fallait que je passe par là pour vraiment comprendre qui j'étais, quoi. Et donc, quand j'ai arrêté de prendre la pilule pour ces raisons-là, en fait, c'est le moment où mes règles ont été les plus violentes. Et je me disais que la douleur associée à ces règles-là correspondait à ce que j'étais vraiment. Et que, enfin, je pouvais m'entendre. Enfin, j'étais dans mon corps de femme. Et que, voilà, la souffrance, ça faisait partie d'une compréhension fondamentale de ce que c'était qu'être femme. Donc, j'avais créé un scénario qui me permettait d'accepter cette douleur comme étant liée à ma nature profonde féminine. En réalité, j'avais des règles importantes et des douleurs beaucoup trop importantes par rapport à la normale. Je souffrais de façon complètement anormale et intolérable, en fait, mais j'étais pas du tout au courant que cette douleur-là était pas acceptable. Parce que t'as aucun référentiel dans la douleur, quoi. Quand tu n'as jamais été éduquée à formuler que tu as une douleur sur ton corps, c'est impossible. Ça se formule pas, ça n'existe pas. J'ai commencé à voir des médecins très tard. Avant, c'est des choses qu'on réglait en famille. Donc effectivement, les douleurs pendant les règles, on n'en parle pas du tout, parce que c'est pas déjà un sujet de médecine, en fait. Donc, j'ai jamais parlé des douleurs de mes règles à quelconque médecin. Pas du tout. Jamais de ma vie. Se débrouiller avec ce corps-là, ça a été assez compliqué, quoi. C'était plutôt quelque chose à trimballer qu'un formidable médium. Enfin. Puis en plus, c'était une époque de ma vie où mes conduites étaient complètement guidées par des normes sexuelles hétéronormées, enfin... Des attitudes que j'avais pas du tout déconstruites à l'époque. Enfin, je suis en cours de déconstruction, c'est pas fini, mais c'est difficile d'exister dans un espèce dans cet entremêlement de choses qui t'appartiennent pas, où finalement ton corps est un résidu qui se met entre les mailles du filet, quoi. Et donc, sur le plan sexuel, je pensais que la pénétration profonde était douloureuse. Enfin, que ça faisait partie de la sexualité, quoi. Et je pensais pas que c'était pas normal d'avoir mal au fond du vagin, en fait. Moi, ouais, j'avais des espèces de petits bricolages, des petites techniques de bricolage ou des combines que je mettais en place. J'essayais de bloquer avec mes jambes pour pas que le corps de l'autre rentre profondément dans le mien, parce que ça me faisait mal. J'essayais d'être dessus parce que comme ça je pouvais gérer les mouvements pour pas que ça aille trop loin, quoi. Parce que trop loin ça me faisait mal. Et donc ça existe, hein, je le fais. Je sens bien qu'on se comprend pas trop avec mon partenaire ou mes différents copains à l'époque. Soit c'était trop brutal, j'avais mal, c'était plié. Soit ça mettait en demande de quelque chose qui n'arrivait pas du tout. Je regarde ça a posteriori parce que à l'époque je savais pas que j'avais un problème. J'ai toujours considéré que mon corps était une entrave à mes activités. Par exemple, dans mon métier, je travaille dans le bâtiment, dans mes voyages, c'est-à-dire que comment tu voyages seule librement avec un corps féminin? dans une discussion publique, comment tu parles librement, consciemment, avec un corps de femme, dans plein de sujets de la vie. C'est pas du tout évident d'accepter ce corps sur lequel il y a tellement de projections, quoi. Donc, de fait, hein, j'ai tout de suite pensé que c'était mieux d'être un homme, enfin que le corps d'un homme serait tellement plus génial, enfin tellement, ça permettait tellement plus de choses, quoi. Déjà, tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu veux comme travail, tu peux te lancer dans un travail passionnel. Sur le plan sexuel, t'es très rapidement satisfait. Ensuite, quand tu pars à l'aventure, y a aucun risque, en fait. Donc, y a eu un moment où j'ai vraiment douté de mon corps, de la validité de ce corps-là. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer avec un corps de femme, quoi. Enfin, c'est un problème, c'est pas possible, ça m'empêche de faire ce que je veux. Je me rappelle d'une soirée déguisée. Je vivais à Toulouse à l'époque, j'étais en classe, en prépa, et on était absolument fans d'un film. C'était Sailor et Lula, de David Lynch. Et donc, Sailor, c'est quand même l'espèce de symbole de la virilité, du masculin, de la folie, de la liberté. Et donc, pour l'anniversaire d'une amie, on s'est déguisé. On lui a offert le déguisement de Lula. Et moi, je me suis travestie en Sailor, quoi. Et à l'époque, j'avais les cheveux courts. Et j'ai compris, devant la glace, que mon corps biologiquement féminin tenait à rien du tout. En fait, que je pouvais tout d'un coup être un homme et que ça se remarquerait même pas. J'ai vraiment balisé, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, j'adore le personnage de Sailor, j'ai une super veste en cuir, mon visage masculin est assez beau, enfin, donc j'ai le visage carré, des pommettes un peu saillantes, j'ai une carrure, j'aurais pu ressembler à Johnny Depp, en fait. Non, mais c'est vrai, quand je me déguise en homme, j'ai l'impression d'être... presque d'être un top modèle, quoi. Un jour, je suis invitée à une soirée organisée par des potes à moi. On était étudiants à l'époque. Le thème de la soirée déguisée, c'est orgie romaine. Et donc, vu que ça me saoule un peu, je me déguise en tout sauf des Romains, quoi. Donc, je me déguise en Jésus. Alors, j'avais une grande toge. J'avais libéré mes cheveux, qui étaient mi-longs à l'époque. Je m'étais dessiné une barbe. Je suis forte en maquillage, quoi. Je peux... rapidement transformer une femme en homme, un homme en femme. Ou... Je suis arrivée dans cette soirée, ils m'ont pas reconnue, ils m'ont serré la main, comme si j'étais une personne étrangère. Ça m'a plu, ça m'a dérangée, parce que ça bouleverse tout. Ça bouleverse tous les efforts que je fais pour essayer d'être une femme, en fait. Je correspondais pas du tout au canon de la séduction féminine. C'était une époque de ma vie où j'ai rejeté le maquillage pour s'embellir. Où j'ai rejeté les vêtements pour s'embellir. C'était une époque où je pensais que le féminisme et la féminité n'étaient pas du tout compatibles. Hein. Je fais pas le lien entre les postures sociales que j'essaye de prendre et les messages que mon corps m'envoie. Parce que aussi, je pense que j'ai une forme de mépris pour tout ce qui est de douleur exprimée. La douleur des règles, par exemple, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut écouter. Enfin, je suis autre chose que la douleur des règles, quoi. Le mépris pour mon corps de femme, c'est quelque chose qui était une habitude, en fait. Sur le plan professionnel, sur le plan sexuel, sur le plan des émotions. Je vivais que mon corps de femme me permettait rien de bon, socialement ou intimement. Tout début de mon lycée, je me rappelle sentir un petit ganglion dans l'aine. Puis cette boule, quand je passe ma main dessus, c'est douloureux, quoi. Elle est douloureuse à certains moments, et à d'autres moments, elle est moins douloureuse. Elle gonfle et elle dégonfle. Donc j'en parle à mon père, qui est le médecin de la famille. Il dit que c'est un ganglion dont il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. En fait, il s'est avéré que ce ganglion est devenu un peu un sujet problématique en 2012, au moment où je fais un rendez-vous chez un gynéco de routine avant de partir en voyage. La femme me dit que ce ganglion n'est pas un ganglion, que c'est que c'est peut-être un problème et que c'est peut-être de l'endométriose et que, de but en blanc, je ne serai jamais fertile. Voilà. J'appelle mon père direct et il me dit « Mais cette femme est folle, tu viens dans telle clinique, mon ami chirurgien va pouvoir t'ouvrir l'aine et puis on va ôter le ganglion avant et puis tu partiras en voyage l'esprit libre. » J'arrive, donc je suis anesthésiée localement. Donc je vois tout, j'entends tout, le corps bouge à mesure qu'il l'ouvre. Donc ils ouvrent, je sais pas, sur peut-être 3 ou 4 cm, ils grattent le ganglion, ils n'arrivent pas à l'enlever parce qu'en fait c'est pas quelque chose de défini, c'est un tissu, donc ils sont très embêtés. Et donc, ils font une biopsie, c'est-à-dire ils analysent ce qu'est le prélèvement et ils se rendent compte que c'est des cellules d'endomètre, donc de l'utérus, qui se situent pratiquement au départ de ma jambe. En fait, à l'époque, personne ne me disait que l'endométriose était une maladie. Donc, quand on me l'annonce, c'est comme si on m'annonçait « Ah bah, t'as fait une couleur de cheveux, quoi !» Enfin, t'as changé de couleur de cheveux ou t'as 3 cheveux gris. Enfin, je pensais pas du tout que c'était une maladie qui pouvait causer des dysfonctionnements des organes vitaux. Je pensais pas que c'était grave. Et à un moment donné, l'été 2018, j'ai été contrainte de rencontrer un chirurgien qui est spécialiste de l'endométriose, mais pour d'autres raisons, parce que je devais me faire enlever un stérilet qui était bloqué. Donc il me dit, faites une IRM et vous revenez me voir avec l'IRM. Donc en octobre, je fais une IRM avec la radiologue spécialiste de l'endométriose qu'il m'a indiqué. Et en regardant les résultats de l'IRM, elle vient me voir, elle, avec des yeux... écarquillée, elle me dit « Mais vous avez une grande endométriose, comment vous faites dans la vie ?» En fait, dans votre état, les femmes sont allongées, les femmes ne bougent pas. J'étais une bête de foire pour ces médecins parce qu'ils hallucinaient que je puisse avoir une vie active, avec des activités physiques, je bouge beaucoup, je suis très impliquée dans mon travail. Comment je puisse vivre quoi, avec ça ? Ça les intéresse de savoir comment j'ai pu vivre une vie sexuelle sans avoir, en ayant ce stade-là de la maladie. Ça les intéressait vraiment. Genre, comment vous avez fait ? Je me rappelle du petit rictus du chirurgien. Mais vous mettez comment ? Enfin, quelles sont vos postures ? Enfin, je sais pas. Moi, je me suis débrouillée. Je me suis toujours un peu démerdée. J'ai jamais conscientisé quoi que ce soit. Devant la radiologue. Je lui demande, c'est quoi l'endométriose ? Comment ça apparaît, en fait ? Comment ça se fait que j'en ai ? Et là, elle me dit, alors, l'endométriose est une maladie, non, non, non. Et là, j'hallucine, je fais, ah bon ? C'est une maladie. Je suis malade, en fait. La maladie était tellement développée que ça allait potentiellement nuire à plein de choses vitales dans le corps. Donc, il ne fallait pas attendre, en fait, on ne pouvait plus attendre. Cette maladie correspond au fait que le corps ne nettoie pas les cellules d'endomètre et de sang que l'utérus dégage pendant qu'on a des règles. C'est-à-dire que toutes les femmes, quand elles ont leurs règles, ont des contractions de l'utérus et expulsent du sang par voie extérieure. Mais elles expulsent aussi du sang dans le corps entre les organes. Les femmes qui n'ont pas cette maladie se nettoie, le corps se nettoie tout seul. Les femmes qui ont de l'endométriose, c'est des femmes dont le corps ne se nettoie pas. C'est-à-dire que les cellules, donc des cellules utérines, des cellules de l'utérus, l'endomètre, s'accrochent à des organes, s'immiscent entre les organes, constituent des foyers et restent et se développent. Et donc, quand tu as tes règles, tout ton ventre gonfle. C'est comme si tout ton ventre était un utérus géant et c'est comme si toutes tes règles endolorisaient tout ton ventre. J'ai vécu pendant 20 ans avec une maladie grandissante qui, plus elle se répandait, plus elle était dangereuse. Et je ne savais pas que je menais une vie indépendamment de mon corps malade. Donc c'est une énorme prise de conscience. C'est une prise de conscience qui passe par les tréfonds de ton intimité, en plus. C'est une prise de conscience viscérale. Là, tu te rends compte que ton corps féminin se retourne contre ta propre vie. Donc, tu passes toute ta vie à essayer de l'accepter. Et tout d'un coup, ce corps-là te dit précisément que, ben non, en fait, ce corps biologiquement féminin porte préjudice à ta vitalité. Donc, c'est un choc. L'opération a été programmée assez rapidement, 2 mois après le rendez-vous avec le chirurgien. J'en ai parlé à personne, en fait, au départ, parce que c'était trop compliqué. Je ne l'ai pas du tout dit à mes parents. J'ai un peu mis tout le monde devant le fait accompli en disant « Voilà, bah, je me fais opérer tel jour de l'endométriose, ce sera à telle clinique. » Et dans cette période d'attente, c'était assez difficile. Du coup, j'essayais de vivre la vie un peu par consommation, de brûler tout ce que j'avais de vie avant cette date-là. Donc, je sortais beaucoup. Ouais, ça a été une parenthèse vraiment étrange, quoi, comme un flottement entre deux mondes, quoi, entre deux états. Enfin, quand j'étais pas au courant, ça allait. Enfin, j'avais une vie, bon, certes, bricolée comme je pouvais, et voilà. Mais en fait, à partir du moment où je l'ai su, ça a tout changé dans le goût de la vie, quoi. Et puis, en fait, c'est là où je fais la différence entre douleur et souffrance. Parce que la douleur, c'est peut-être les symptômes physiques qui sont déplaisants. Mais la souffrance, c'est tout le paysage qui gravite autour de la douleur ou de la maladie. C'est-à-dire que comment t'en parles avec ton entourage, ce que t'anticipes. Et tout ça crée de la souffrance. Ça étoffe la maladie, en fait. C'est beaucoup plus dur à gérer qu'une douleur, quoi. Là où les règles pouvaient être une douleur, elles deviennent une souffrance. Et là, tu psychotes sur est-ce que mon corps est encore plus malade après 7 jours de saignement ? Dans quelle proportion ? Est-ce que ça va détruire mon organe qui vit encore ? Et cette peur-là, tu ne peux pas trop en parler parce que du coup, les autres ont peur pour toi et ça augmente ta peur. Quelque chose de très solitaire, en fait. Et donc, autant auparavant, il y avait un espèce de dialogue avec ce sexe biologique, autant là, les murs sont immenses, quoi. Enfin, là, ça devient quelque chose en pierre, quoi. Ton corps nu est devenu quelque chose de froid. Ben, je me rappelle observer mon ventre, observer tout de haut, comme ça, et me dire « on n'est pas amis, on n'est pas amis, mon corps et moi ». Alors, ce qu'on me raconte qu'on va me faire avant d'être opérée, c'est qu'on va m'enlever une partie de mon vagin, on va racler une partie de mes intestins, on va ouvrir mes abdominaux, racler une partie de mes abdominaux, on va opérer de deux manières différentes, et par l'intérieur et par l'extérieur. Il y a donc deux chirurgiens qui vont intervenir avec des méthodes différentes, ça va durer longtemps, il y aura une dizaine de jours d'hospitalisation. On me prévient, mais bon, je ne réalise pas du tout ce qui va arriver, quoi. Donc le jour même, j'arrive le matin, je ramène un poème « Liberté » de Paul Éluard. J'ai toujours ma boussole pour ne pas perdre la direction. J'ai mon petit troisième œil d'Istanbul. Enfin, j'ai mes petits, j'amène tous mes petits gris-gris avec moi pour vivre cette chose-là accompagnée. Je ferme la porte de ma chambre, je mets ma musique préférée à ce moment-là et je danse dans la chambre à en transpirer, quoi. Calm Down. C'est un morceau de Anderson .Paak et ça me procure du plaisir de danser. Je me mets ça à fond avant de ne plus pouvoir le faire pendant plusieurs mois. Donc, c'est mes derniers moments de danse, quoi. Et c'était donc dans cette chambre d'hôpital. Puis après, j'arrive dans la salle d'anesthésie. Et donc, j'étais assez stressée, très stressée au point que j'en pleurais. Donc, il y avait des infirmières très gentilles autour de moi qui essayaient de me réconforter. Et là, il y a l'anesthésiste qui me dit « on va vous injecter un liquide qui va vous endormir, donc détendez-vous ». Donc, moi, j'étais pas du tout détendue et il commence à s'inquiéter et il commence à monter le ton de sa voix. Et à un moment, il me hurle dessus en me disant « respirez ». Et là, j'ai une bouffée d'angoisse et je perds connaissance. Voilà, l'opération dure 4 heures. C'est une opération complexe. C'est délicat, voilà, pour des chirurgiens de faire ce genre d'opération, parce que l'endométriose est tellement propagée que ça peut vraiment causer des risques pour les autres organes ou pour... il peut y avoir des conséquences graves si c'est pas bien fait. Puis après, il faut se lever. Même après, juste après avoir été opéré, il faut se lever. T'as des trous partout, quoi. T'as des bleus immenses sur le corps, t'as des cicatrices dans tous les sens, on te demande de te lever, quoi. Tu te dis, mais j'y arriverai jamais, enfin, comment je peux... Puis on te dit, oui, bah, dans quelques jours, tu arriveras même à marcher 7 pas d'affilée. Moi, j'y croyais pas du tout. Et en fait, si, même avec une douleur immense, tu peux avancer un pas et après l'autre, un autre pas. Chaque jour a été très difficile, mais chaque jour c'était des micro-victoires. Par exemple, le moment où tu arrives à enlever tes bas de contention tout seul, sans l'aide d'une aide-soignante, sans l'aide d'une infirmière, c'est incroyable. Le moment où tu arrives à tenir le pommeau de douche pour te laver tout seul, le moment où tu arrives à aller toute seule dans la salle de bain pour faire tout ça, quoi. Et donc, ça, ce sont des gestes de base. Se laver, manger, se brosser les cheveux. Mais après, il y a d'autres gestes qu'il faut absolument que je fasse pour guérir. Et ça, c'est des gestes que je connais pas du tout et qu'il faut que j'apprenne. Par exemple, j'ai des soins très précis à avoir parce que après l'opération, en fait, les organes sont traumatisés. C'est-à-dire, je ne peux pas uriner normalement. Ma vessie ne fonctionne plus. Alors, il faut procéder à des sondages. Il faut imaginer que ton corps est complètement paralysé par la douleur et ce sont les infirmières qui le font pour toi. Donc, imaginons la situation. Tu es allongé sur ton lit d'hôpital. Il y a 2 ou 3 personnes qui viennent. Tu dois donc enlever tes sous-vêtements d'hôpitaux. Tu écartes les jambes. Et là, des infirmières commencent à te désinfecter. Elles écartent les petites lèvres. Elles soulèvent. Elles ouvrent. Et elles trouvent le méa. Et elles introduisent la sonde à l'intérieur. Et c'est donc un rituel qui arrive 4 ou 5 fois par jour. Et à un moment donné, elle me dit « Bon, maintenant, c'est à toi de le faire, parce que le fait de ne pas pouvoir uriner par voie naturelle risque d'être très long après l'opération, donc il faut que tu saches le faire toi-même. On ne te laisse pas partir de la clinique si tu ne sais pas le faire toi-même. » Et on installe le miroir entre mes jambes, et elle me montre comment on procède à l'insertion d'une sonde dans le méa urinaire. Alors, j'avais jamais vraiment pris connaissance de mon anatomie détaillée, quoi. Et donc là, je découvre avec elle, pour la première fois de ma vie, quelque chose qui est juste essentiel, qui est une évidence pour le sexe des hommes, mais pour le sexe des femmes, c'est pas du tout une évidence. Ouais, c'est la première fois que j'observe mon sexe comme un objet d'anatomie ou quelque chose dénué d'affect, dénué de projection... de peur, ouais. Maintenant, il faut résoudre un problème, enfin, et donc on va le résoudre. Et je suis la seule à pouvoir le faire. Et en fait, on pense qu'on n'est pas capable de faire ce genre de choses. Jamais j'aurais pu penser que j'étais capable de faire ça. Mais à un moment donné, t'es toi-même avec toi-même et tu te dis, bon, allez, on va y arriver, quoi. Rien n'est impossible, en fait. On est obligé de le faire, puis c'est pour s'en sortir. Donc après, il y a plein de techniques. Après, j'arrivais à le faire très facilement. Pas jamais très facilement, et puis c'est pas du tout agréable à faire, mais on s'y fait, et puis tellement fière quand tu commences à ressentir tes muscles fonctionner, et de moins en moins, t'as besoin de faire ça, et puis à un moment donné, 2 mois après, tu ne le fais plus du tout. Et là, tu te dis, c'est le corps, et on peut faire confiance au corps pour se rétablir, pour reprendre ses habitudes. Et en réalité, donc j'ai pris l'écoute de ce corps-là comme des petits rituels du quotidien. Donc prendre le temps de se laver, c'est quelque chose de très reposant, en fait. Prendre le temps de se faire belle. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris à la clinique aussi. C'est-à-dire que c'est du luxe de se faire belle. C'est, donc se mettre des bijoux si on a envie, ou de se coiffer, ou de se maquiller. Au-delà du besoin, en fait, c'est aussi quelque chose qui rend plus fort. Pendant cette semaine, ces 10 jours de clinique, il y a eu des moments très difficiles. Et il y a eu des moments de prise de conscience magnifique. Des moments où tu sens ton corps complètement dégradé, et des moments où tu sens ton corps en voie d'embellissement ou beau, quoi. Où tu travailles à embellir ton corps et à le rendre beau. Disons qu'avant, j'avais un rapport presque hiérarchique avec lui. Du coup, je lui imposais telle ou telle direction. Soit de négation, soit de sursexualisation. Et maintenant, je dirais que j'ai plus un rapport vertical. J'ai plutôt un rapport horizontal. Le rapport à mon corps, il vient plus de l'extérieur, en fait. Il vient de l'intérieur vers l'extérieur. On a changé de direction. En tout cas, j'ai plus du tout envie d'être violente avec moi-même. Hein. C'est fini, ça. Donc, il y a eu plusieurs choses que j'ai dû réapprendre. Puis après, puis quand tout allait mieux, reprendre éventuellement une sexualité, quoi. Quand je rencontrais des hommes, je parlais tout de suite de ce qui m'était arrivé. Donc, comme ça, qu'ils attendraient rien de spécial de moi. Ou me toucher, ou rentrer en contact avec mon corps. Et peut poser potentiellement des problèmes pour ma santé. Donc, il y avait une forme de douceur et d'écoute et de distance, à la base, de l'ordre du respect, en fait, qui s'installait de fait avec les rencontres que j'ai pu faire après l'opération. Je créais le contexte pour qu'il n'y ait jamais un geste de trop. Et bon, les flirts, c'était pas très intéressant, mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un. Ça a commencé tout doucement, et ma manière de rencontrer une personne aujourd'hui est complètement différente d'avant l'opération, quoi. Aujourd'hui, j'ai plus peur de dire ce qui me convient pas ou de dire ce qui me convient, même si c'est jamais facile. En tout cas, j'ai moins peur qu'avant de parler, quoi, ou exprimer mon désaccord avec des désirs qui ne sont pas les miens. Juste réapprendre une sexualité hétérosexuelle en ayant déconstruit le fait que la pénétration n'est pas forcément une chose normale et en plus qu'elle ne devrait pas faire mal. Enfin, bon, il faut réapprivoiser ces pratiques-là que je considérais comme une évidence, mais qui n'en sont pas du tout, vu la méconnaissance que j'avais de mon anatomie, de mes organes de plaisir, et vu la méconnaissance que j'avais de la maladie, quoi. En sortant de toute cette aventure, il y avait quelque chose que je voulais faire. C'était de prendre le temps de regarder et de dessiner mon sexe. Pour ça, j'avais besoin d'être seule. Parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient dans mon appart pour savoir comment ça allait, pour me faire manger, tout ça. Donc, à un moment donné, j'ai eu un moment de tranquillité. Et j'ai pris mon petit miroir de l'hôpital, là, qui est un miroir à deux faces. Et je me suis assise sur mon lit. J'ai positionné le miroir entre mes jambes, posé. Et en fait, c'est un miroir qu'on peut incliner. Donc, c'est très pratique pour qu'il soit stable. Et donc, j'ai pris mon carnet, un crayon, et j'ai commencé à le dessiner. Ça a pris beaucoup de temps. Avant de dessiner quoi que ce soit, c'est l'observation. En fait, il n'y a pas de dessin sans observation. Donc vraiment, le dessiner, c'était créer un regard. En fait, je me suis rendu compte de la complexité de cette partie de mon corps que je ne connaissais pas. Et en fait, ça a duré 2 heures. J'ai essayé d'être au plus précis possible, le plus réaliste possible. Et je me suis rendu compte que c'était comme un drapé, en fait. Je me revois dans mes cours de dessin à dessiner des drapés quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment trouvé ça, je trouvais ça magnifique, en fait. Puis que ce soit en pleine page, comme ça, c'est tout d'un coup immense. C'est tellement détaillé, enfin, il y a tellement de précision. Et puis en plus, ça bouge. C'est étonnant, mais ça bouge. Et donc, comment tu dessines quelque chose qui bouge ? Ça bouge sans que tu le saches, quoi. après ce dessin-là, j'ai commencé à le trouver très beau, en fait. C'est la première fois que j'ai trouvé ça beau. Et maintenant, je le connais graphiquement. Enfin, je sais à quoi il ressemble, en fait. Alors maintenant, si tu me mets plusieurs photos de sexe féminin, je te dirais, bah, celui-là, il est à moi. Je sais que c'est le mien. Je sais à quoi il ressemble précisément. Je respectais pas du tout mon corps avant l'opération. J'oubliais mon corps en le forçant à aller dans des endroits où je voulais pas aller, en le brusquant, hein, ou en n'écoutant pas sa fatigue, en poussant à bout, en tenant ce corps à tout prix vers une rapidité, vers quelque chose qui est tout le temps en performance, quoi. Je pense qu'il n'y a pas un état où tu respecterais complètement ton corps et un état où tu le respecterais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai pris conscience que je ne respectais pas du tout mon corps à cette époque-là. Maintenant, je travaille à construire ce respect. Mais ce n'est pas quelque chose de fini ou de définitif. C'est quelque chose de très fragile, en fait, dont il faut vraiment faire attention. J'ai beaucoup de colère contre une société qui pousse les corps à tout prix, contre l'éducation... qui insisterait sur la souffrance du corps pour pas venir à un certain succès physique, social. Je trouve que c'est une culture qui est mortifère. Et j'ai aussi beaucoup de colère contre le corps, le monde médical. Parce qu'en vivant toute cette expérience, évidemment, il y a des milliers d'années d'histoire qui ont résonné dans les tréfonds de mon intimité, où je me suis dit que... Au nom de la science, au nom de la raison, au nom des lumières, on a quand même excisé, on a enfermé, on a fait du spectacle sur des corps malades féminins. On a construit des maladies féminines, la science a construit des maladies féminines, d'un côté. Et de l'autre, il y a un déni scientifique absolu sur l'anatomie, sur des maladies. Donc, j'ai beaucoup de colère contre comment la science a construit des mythes autour de la souffrance des femmes. Enfin, j'ai eu l'impression cette année d'être une pionnière de ce qui se passe en ce moment, sur les nouveaux champs de connaissances qu'on ouvre sur le corps féminin. Et c'est pour ça que je pense que cette histoire-là, elle n'est pas que intime, elle est publique, en fait. C'est que la question du plaisir, la question de la douleur, tout ça, on commence à en parler. Et qu'on porte dans l'intimité de nos corps de femmes des milliers d'années de pensées violentes, de projections violentes, patriarcales, et que j'ai l'impression qu'on arrive à un moment charnière où on passerait à autre chose. Et en fait, moi, en l'ayant vécu physiquement, j'ai l'impression qu'on participe à... vraiment à l'entrée dans un nouvel ordre scientifique féminin. Enfin, des femmes commencent à prendre place dans la recherche, des nouveaux projets de recherche qui s'ouvrent sur des sujets qui sont plus contemporains et plus dans l'écoute, dans le respect du corps des femmes. Je peux dire aujourd'hui que je suis en voie de réconciliation avec mon corps féminin. J'en suis fière avec toute l'histoire qu'il porte, en fait. Je suis fière de mes cicatrices. Je me trouve encore plus belle avec mes cicatrices. J'en ai sur le ventre, de droite à gauche. J'ai 5 petites cicatrices et une grande cicatrice qui fait 5 centimètres. Et en fait, c'est sur mon ventre. Et j'hésite pas à porter des t-shirts courts. Même, ça me donne du courage. La chose la plus étrange, c'est que la forme de mes cicatrices, on dirait une, comme si un tigre avait griffé. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir lutté avec un animal dangereux et d'en être sortie et d'avoir encore la marque de la guerrière qui est sortie victorieuse d'un combat. Ouais. Et en plus, je crois que ça impressionne un peu les hommes de porter fièrement des cicatrices avec grandeur, quoi.
Cet épisode de transfert a été réalisé par Agathe Le Taillandier. La musique a été composée par Marine Kemere. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast, à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux à Chapudelot sur Instagram et envoyer vos histoires à podcast@slate.fr. À très vite.